Ça va bien ce matin? Alors, je vais vous rappeler ce matin qu'on n'appelle pas les pompiers lorsque tout est brûlé, n'est-ce pas? Qui fait ça, là? On appelle les pompiers quand? Hein? Ça sent la boucane? Ça sent le brûlé? Les frères m'ont demandé de rappeler à l'Assemblée ces deux petites cartes, une verte et une jaune. Et les anciens sont très derrière ce projet qui s'appelle pour l'équipe pastorale SOS Fardeau. Vous savez, dans Actes 6, 4, j'aimerais vous rappeler qu'il est écrit « Et nous, les apôtres, ceux qui enseignaient, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Pour nous, la prière, c'est une priorité pour nous, les anciens. Et on a préparé cette petite carte ici, jaune. C'est des demandes de prière pour les anciens au Cap. Donc, la demande de prière pour les anciens, qui est confidentielle, qui va rester avec les anciens, il y a une petite boîte qui est barrée dans la chambre pastorale, dans le bureau pastoral à gauche, lorsque vous sortez, vous allez voir, il y a ces cartes-là accrochées après la porte, et vous pouvez la glisser dans la petite fente qu'il y a là. Donc, on invite l'Assemblée, ceux qui ont des requêtes de prière, de prendre cette petite carte et de la remplir. Et là, il y a des choix que vous pouvez cocher, maladie, travail, famille, épreuve, action de grâce ou autre. Ensuite, j'aimerais vous dire aussi que donnez des détails de votre requête, s'il vous plaît, écrivez lisiblement, soyez spécifique. Les anciens ne peuvent pas prier pour des requêtes anonymes, parce que nous voulons avoir un suivi en ce qui concerne les requêtes. À tous les mois, on va vous téléphoner, on va vous demander qu'est-ce qui arrive, parce que nous, on veut des réponses aux prières, puis on veut dire « Gloire à Dieu, merci Seigneur, tu réponds aux prières. » Croyez-vous à la puissance de la prière? On y croit, nous aussi, puis on veut vous inviter à prendre ces cartes et remplir ces cartes lorsque le Seigneur vous met à cœur de partager une requête de prière, les choses que vous vivez, etc., etc. Il y a aussi une autre carte qui est verte, qui est la rencontre, le désir de rencontrer un ou des responsables de l'équipe pastorale. Et là, on a mis Adama, Michel et Gabriel, qui sont les ouvriers plein temps à l'Assemblée. Et derrière nous, trois, il y a toute une autre équipe, il y a toute une équipe de responsables, il y a une équipe de femmes et d'hommes qui aimeraient accompagner les gens qui vivent des choses difficiles. Donc, nous voulons vous demander que si vous voulez une rencontre, alors il s'agit de remplir cela, votre nom, téléphone et la date que vous faites cela, et s'il vous plaît, donnez vos préférences pour la rencontre, le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, la date de la rencontre, vous la fixez, et vous nous donnez quand est-ce que vous allez être libre pour la rencontre. On va vous téléphoner pour fixer une rencontre. Les responsables sont disponibles du mardi au vendredi. Et on va être ici, et on va faire du bureau ici à gauche. Et on va pouvoir avoir aussi l'autre côté, la salle multiservice de l'équipe pastorale. Donc, c'est des outils. C'est des outils qu'on se donne. Vous savez, lorsqu'on était 80 à l'Assemblée du Cap, c'était facile. Les années 70, là. C'était facile pour ceux qui étaient en responsabilité de faire le tour de l'Assemblée une couple de fois dans la même année. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut plus faire ça. Donc, on a pensé de se donner des outils. Donc, on vous invite. Il n'y a pas de gêne. Si vous voulez jaser avec nous, si vous voulez partager quelque chose avec nous, nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir remplir ces cartes. Merci beaucoup. Donc, on est dans l'Apocalypse, tourné dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Après cette belle introduction que nous avons eue la semaine passée, on entre par la porte d'en avant. Vous savez, dans le monde, il y a un paquet de gens qui ont passé sur la planète Terre puis ont fait une impression vraiment là, extraordinaire. Et même aujourd'hui encore, on donne des prix Nobel, n'est-ce pas, à des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour l'humanité. Il y a des gens qui ont passé sur cette planète Terre et qui ont fait beaucoup de tort aussi. Et on pourrait parler de toutes sortes de personnes qui ont été des dominateurs, des gens qui ont tué, qui ont fait des guerres. Et il y en a aussi des gens qui ont passé sur la planète Terre, qui ont fait des bonnes choses, des belles découvertes, et des choses qui sont belles. Et si on vous poserait la question, quel est l'homme qui a influencé le plus la planète Terre? Bien, moi, j'aimerais dire, c'est Jésus-Christ. Si vous allez dans l'Encyclopédie Britannica, puis vous regardez le nom Jésus-Christ, Il y a plus de mots qui décrivent Jésus-Christ qu'il y en a qui décrivent César, qui décrivent les philosophes de notre époque, qui décrivent des grands hommes, prix Nobel. Mais lorsque vous arrivez à Jésus-Christ, il y a des pages et des pages de notes et d'explications, et on rentre dans le christianisme et on s'aperçoit que Jésus, qui n'a pas écrit lui-même un livre dans sa vie, qui n'a pas voyagé en avion non plus, qui a resté dans le même territoire, qui a passé d'une manière publique 3 ans et demi environ d'un ministère dans le bout de Jérusalem, ce Jésus a influencé, mes amis, le monde entier depuis sa venue sur la planète Terre. Et nous sommes maintenant dans ce dernier livre qui est le livre de l'Apocalypse. Et le premier mot qu'on a dans ce livre-là, c'est « révélation ». Et moi, je vous dis quelque chose. Si Jésus a quelque chose à me révéler, moi, je rouvre mes oreilles toutes grandes. Puis je dis à Jésus, « Révèle-moi ce que tu as à me dire. » Et nous allons embarquer dans cette étude systématique et plusieurs frères vont venir avec des portions. Et moi, on m'a confié le premier chapitre. Et je vais vous dire que j'ai dit à moi-même, ouais, le premier chapitre, je vais faire ça d'une semaine. Mais là, à force de gratter puis tout ça, puis là, on s'est aperçu qu'il y a du stock dans ça. Donc, on me donne 2 semaines. Donc, vous allez m'endurer 2 semaines. On va lire les premiers 8 versets ce matin. On entre par la porte d'en avant. On a envie de sauter après les bébites, puis on a envie de voir les affaires qui vont arriver, puis on a envie d'expliquer toutes les monstres qu'il y a dans là. Mais mes amis, retenons-nous. Parce qu'il y a un animal qui est mentionné dans l'Apocalypse. Et je vais en parler la semaine prochaine. Et c'est l'animal qui est le plus répété dans l'Apocalypse. Et j'aimerais qu'on introduise ce merveilleux livre ce matin d'une manière spécifique pour continuer ce que Doug a commencé. Donc, la lecture de la parole de Dieu, premier chapitre, premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Ici se termine la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire en partant que ce n'est pas arrangé avec le gars des vues pour un matin. Hein? Le thème ce matin, le Seigneur a permis que le thème soit le même texte que nous avons ensemble pour étudier ce matin. On était préparés pour ce texte ce matin par la table du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir ces beaux textes qu'on vient de lire. Je vous propose d'observer la parole de Dieu. Le sens obvi du texte est important. Je vous propose l'interprétation de la pensée de l'auteur et je vous propose une application pour 2007, nos jours. C'est mon but ce matin. Mon but ce matin, c'est d'entrer par la porte d'en avant et entrer dans l'Apocalypse avec un contexte, avec une sobriété, et que nous allons vraiment saisir ce que Jésus-Christ veut révéler à ses serviteurs. Nous sommes privilégiés. Nous avons une fenêtre ouverte dans l'au-delà. Et le Seigneur nous donne des brides de son plan pour l'univers. J'aimerais qu'on puisse ensemble réaliser que nous sommes devant le sommaire du plan de Dieu pour sa création. On est devant ces grandes vérités qui sont tellement énormes, qui englobent toute l'humanité entière, tout l'univers créé. La révélation de Dieu. Dieu a un plan. Et j'aimerais qu'on réalise ce matin, Dieu a un plan pour l'univers, Dieu a un plan pour l'Église, Dieu a un plan pour les Juifs, les non-Juifs, Dieu a un plan pour les impies, Dieu a un plan pour les athées, Dieu a un plan pour les agnostiques, Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu est souverain et en contrôle. Pensez pas que c'est les nouvelles du soir qui dictent, si vous voulez, le cheminement de la planète Terre. Derrière tout ça, on a un Dieu qui est souverain, un Dieu en contrôle. Et c'est pour cela que les serviteurs de Dieu, au travers des siècles, ont passé au travers de toutes sortes d'épreuves. Et j'aimerais vous rappeler rapidement ce matin que l'Apocalypse a été écrit pour encourager les serviteurs et les servantes de Dieu qui étaient sous Domitien en train d'être éprouvés par la persécution. L'Apocalypse est écrit non pas pour se creuser la tête avec les bébites qu'on voit dedans. Elle a été écrite pour encourager le peuple de Dieu à lever les yeux vers le ciel et voir Jésus glorifié. Voir que Jésus nous révèle le sommaire du plan de Dieu pour sa création. On a un Dieu en contrôle. Un Dieu vivant. Un Dieu qui sait ce qui s'en va avec la planète Terre. Que c'est donc réconfortant ce matin. On ne sait pas ce que le dollar canadien s'en va. On ne sait pas ce qui arrive avec les accommodements raisonnables. On ne sait pas ce qui arrive avec la température. On ne sait pas ce qui arrive avec ci et cela. Mais sachons une chose, que Dieu n'est pas dépassé par les événements de la planète Terre. Soyez dans la paix, frères et sœurs. Levez les yeux vers le ciel. Ayez confiance en Dieu. La parole nous parle que c'est une révélation. C'est quelque chose qui nous est montré. Il a fini les mystères, les divinettes. C'est clair, net et précis. Ah oui, il y a certaines choses qui nous dépassent. Puis après. Mais Dieu nous révèle son plan. Et nous voulons ensemble, dans ce livre, le prendre parce que c'est Jésus qui enlève le voile sur des vérités qui concernent l'humanité tout entière. C'est Dieu qui lui a donné, Dieu qui a donné son Fils unique. C'est pour montrer aux serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ces choses, nous ont été fait connaître par qui? Un messager. Un ange, Angelos qui est ange. Jean témoin oculaire. Ce n'est pas des histoires qu'entendues. Il est témoin oculaire de ces choses-là. Il les voit. Il atteste ces choses, la parole. Et il dit, voici ce que Jésus-Christ m'a fait voir. Voici ce que Jésus-Christ a ouvert pour que je puisse voir. Voici ce que Jésus-Christ a fait. Il a enlevé la couverte qui cachait tout cela. Et puis, il m'a fait voir. Et Jean atteste ces choses. Et nous avons au verset 1-3, la première, si vous voulez, de sept béatitudes, de sept bénédictions. Bienheureux. Commençons par le commencement. Bienheureux celui qui quoi? Qui lit. Ouais, mais on ne comprend pas tout. Attends un peu. Bienheureux celui qui lit les paroles de la prophétie. Je me souviens, Paul Garnett, une fois, on l'avait interviewé au Café chrétien. Puis Jean-Claude avait posé la question, « Avez-vous un conseil pour les chrétiens, pour les jeunes chrétiens qui sont ici? » Puis il a cité ce verset-là. « Bienheureux celui qui lit. » Jean dit, « Voici une béatitude qui est à la portée des hommes et des femmes de Dieu. » Heureux celui qui lit les paroles de la prophétie. Parce que c'est Dieu qui révèle. Heureux celui qui entend les paroles de la prophétie, qui comprend ces paroles, qui saisit ces paroles, qui les entend, et ça fait un sens. Heureux celui qui garde ces paroles, celui qui porte ces paroles dans son cœur. Et nous savons que dans le premier chapitre d'Apocalypse, cette bénédiction, en partant, s'adresse au peuple de Dieu, aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Heureux, béni sois-tu parce que tu lis, parce que tu entends, tu saisis, tu comprends et que tu gardes la parole. Parce qu'on a besoin. Parce que dans le premier siècle, il y avait des chrétiens qui étaient troublés. Les chrétiens vivaient des grandes persécutions. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les rassurer, quelqu'un pour leur donner de l'espoir, quelqu'un pour leur dire, « Écoute, tu vis des choses difficiles, mais regarde, Jésus a enlevé le voile, il te révèle le plein, le sommaire du plein pour l'humanité, sa création, il te la révèle. » Heureux lorsque tu vas lire, parce que tu vas être encouragé de voir que Dieu est souverain, que Dieu est en contrôle. Parce que 3D nous dit, le temps est proche. Et c'est le mot qui paraît 80 fois dans le Nouveau Testament, kairos, qui veut dire l'époque. L'époque est proche. Ça se précipite dans les derniers temps. Proche dans le temps, hein, en 95-96, Jean nous dit, c'est proche. Oui, mais Michel, on est en 2007. L'époque est proche. Saignez vos reins. Parce que Dieu est patient. 2 Pierre 3, 9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. Prenons pas Dieu pour quelqu'un qui a oublié son plan. Prenons pas Dieu pour quelqu'un qui n'a pas de plan. Prenons pas Dieu pour quelqu'un qui a oublié la planète Terre puis est parti en vacances en Floride à quelque part. » Non, non. Dieu sait très bien ce qui s'en va, mais il est patient. On va voir des choses épeurantes dans l'Apocalypse, dans le futur. Et si vous n'êtes pas prêt à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître de votre vie, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez voir qu'il y a un paquet d'affaires qui vous attend. Sachons que Jean est en train de s'adresser au peuple de Dieu. Il est en train de dire, c'est pas n'importe qui parle. Vous savez, lorsqu'on va à la salutation de 4 à 8, on aurait pu prendre juste ça et dire, ben regarde, il y avait 7 églises, Patmos est au bout de la flèche, là, une petite île tout croche. Mais vous savez, on peut se poser la question, mais pourquoi ces 7 églises-là? Bien, on va le voir en détail plus tard. Mais à ce point-là, lorsqu'il va faire la salutation, c'est spécifique. Il y a un message pour 7 églises choisies. Il y avait d'autres églises, il y avait l'église de Colosse, il y avait Troas, il y avait d'autres églises dans ce temps-là, mais ces 7-là ont été choisies. Certains veulent dire que c'est symbolique, mais peu importe. Pour nous, c'est Dieu a un message spécifique pour ces 7 églises. Et Jean nous dit ça en partant.
Mais ce n'est pas n'importe qui parle à ces églises-là. Et c'est pour cela que du verset 4 au verset 8, on a là la signature de la Trinité. La signature de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire réaliser, frères et sœurs, mes amis, lorsque tu lis l'Apocalypse, lorsque tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe qui parle. Je suis convaincu, si on recevrait une lettre de M. Harper, marquée personnelle dessus, je pense qu'on l'entendrait parler à l'Assemblée. Il y a même quelqu'un qui a donné la main à Rock voisine à Cabaneau, puis je l'ai entendu parler. Fait que c'est important, hein? C'est important qui parle. Et on doit savoir en partant, frères et sœurs, dans cette étude, que ce n'est pas n'importe qui est en train d'écrire ça, l'Apocalypse. Ce n'est pas n'importe qui révèle. Ce n'est pas n'importe qui parle. Et c'est cela qu'on voit dans ces versets. L'autorité spirituelle de Jean, de la part. Et ce qui est intéressant dans cette expression « de la part », c'est un petit mot, « apo », qui est traduit par quatre mots français, « from » en anglais. Et on doit réaliser ici que « de la part de celui qui est, qui était et qui vient ». Puis laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vous dirai pas le nombre d'heures que j'ai passées dans cette expression-là. J'ai peur de me faire slacker. Une expression chère à nos cœurs, que vous avez remarqué ce matin, n'était pas sur le tableau. Le verset 4 n'était pas là. Verset 8 était là. 22, 13 était là. Mais celle-là n'était pas là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un problème, là. Puis le problème, c'est une règle qui est obscure en français, parce qu'elle n'existe pas. Est obscure parce qu'on ne le voit pas dans le texte français, mais lorsqu'on étudie profondément dans le texte original, on s'aperçoit qu'il y a un problème lorsqu'on lit dans les textes originaux. Le problème, c'est que lorsque pros est là avec un nom, il est supposé d'être transformé de nominatif à génitif. Puis Jean ne le fait pas. Très grave erreur. Parce qu'il le fait dans les autres places. Les mêmes expressions, mais il le fait. Et les commentateurs, les experts vont vous dire ici que Jean est en train de nous dire « Voici celui ». Et avec l'article, c'est un mauvais français, mais ça dit littéralement « L'étant, le il était et le venant ». C'est une expression qui nous réfère au Père éternel de lumière. Le Père des lumières chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça nous réfère à la souveraineté de Dieu qui a donné son Fils. La souveraineté de Dieu qui est en contrôle. Dieu qui a un plan pour sauver l'humanité. Dieu qui a un plan pour juger l'humanité. Et Dieu qui a un plan pour toute l'éternité, pour toute l'humanité. Et même la création tout entière est sous le courroux de Dieu. Et toute chose va être recréée nouveau. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Jean est en train de nous dire ici, de la part du Père, celui qui existe dès le début. Deuxième autorité, B, pros, de la part des sept esprits qui sont devant le trône de Dieu. Il va nous dire les sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu. Apocalypse 4, 5. Il va nous dire dans Ésaïe 11, 2, l'Esprit de l'Éternel, sagesse, intelligence, conseil, connaissance, crainte. Isaïe a prophétisé les sept esprits de Dieu. L'omniscience de Dieu est proposée dans 5-6 Apocalypse, et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, et quoi? Sept yeux. Et là, y a-t-il un mystère dans ça? Ils disent, c'est quoi? Ils sont quoi? C'est quoi? Les sept esprits de Dieu envoyé par toute la terre. Est-ce qu'on sait ça, que Dieu, il est partout? Il sait tout. Il voit tout. C'est dur à comprendre? Oui! Très difficile. Mais arrêtons d'extrapoler. Le texte nous dit c'est quoi les sept esprits. Donc, il est en train de nous dire ici que cette lettre, l'autorité spirituelle de Jean, vient de qui? Vient du Père et vient de l'Esprit de Dieu. Il continue. Troisième, pour compléter. Pros de la part de qui? Le oint. C'est important. On lit Christ toujours, là, on le prend pour le, comme qu'on voit le deuxième nom de quelqu'un, mais il faut savoir que Christ veut dire le oint, l'envoyé. Celui qui a été envoyé sur la planète Terre pour régler notre problème de péché. Le oint. Le Sauveur, le oint, le Christ. L'autorité de Jean va du Père à l'Esprit et au Fils. Ce témoin fidèle. En deux mots, lorsque vous lisez la parole, dites-vous une chose. Lorsque Jésus parle, lorsque la parole de Dieu nous parle, on peut se fier sur la fidélité de Dieu. Lorsqu'il parle, c'est vrai. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Très important. De la part du premier-né des morts, Prototokos et non pas Protokostos. La différence, très simple. Jésus-Christ est le premier-né et non pas le premier créé. Prototokos nous parle du premier-né et ce sens dans la parole nous donne une image de celui qui est en primauté, de celui qui est le plus important, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, prototokos, de toute la création. Ce thème renferme souvent dans l'Écriture, souvent mentionné dans l'Écriture pour nous souligner et indiquer la priorité du rang ou de l'importance plutôt que l'ordre de naissance. Et j'ai trois exemples pour vous rapidement. Israël, premier-né. C'est les premiers-nés, une expression qui renferme. Israël est important à mes yeux. Ceux qui touchent à Israël touchent aux prunelles des yeux de Dieu. Dieu a un plan pour Israël. Troisième exemple, David, qui est le dernier de huit fils, est appelé quoi? Le premier-né. En importance, il est le premier. Éphraïm, Jérémie 31:9, c'est la même chose. Éphraïm était le cadet de deux fils de Joseph. Et il est appelé quoi? Le prototokos, le premier-né. Cette expression qui dit que Jésus, et Hébreux dit la même chose, le premier-né, celui qui est en importance, celui qui est le souverain, celui qui est le premier en toutes choses. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, Colossiens 1:18. De la part de quoi? Jésus-Christ, le oint. De la part du témoin fidèle, de la part du premier-né des morts, et quatrièmement, de la part du prince des rois de la terre. C'est prince des rois de la terre. Il est celui qui donne les ordres. Il est celui qui règne. Et Daniel nous rappelle que les rois et les despotes et tous ceux qui conduisent l'humanité sont dans sa main. Les nations sont dans sa main. Et c'est lui qui suit, qui va faire en sorte que telle chose arrive à telle place. Dieu est en contrôle. Vous allez me dire, bon, Michel, mais comment comprendre tout ça? Je ne le comprends pas, mais c'est Dieu qui le dit. Dieu dit qu'il est souverain, qu'il est en contrôle, il est le prince, celui qui ordonne les choses, celui qui contrôle les choses, et celui qui est le premier en toutes choses, et celui qui donne les règles du jeu. Et le bas de la ligne, c'est lui qui a le dernier mot. Et si on pouvait appeler l'Apocalypse avec un titre, je pensais à ça cette semaine, je pense que je l'appellerais celui qui donne le dernier mot de l'humanité, celui qui a le dernier mot. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, la première lettre de l'alphabet grec, la dernière lettre. Avant lui, il n'a pas, puis après lui, il n'aura pas, puis il n'aura jamais. En lui, toute chose va être un jour glorifié. Et on va le voir plus tard ensemble. Donc, salutations de la part de la Trinité, de la part du Père, du Saint-Esprit et du Fils. Et Jean nous dit, voici pourquoi vous devez lire d'une manière très attentive. Vous devez faire attention parce que vous avez sous les yeux quelque chose d'extrêmement important parce que Jésus a enlevé la couverte pour qu'on puisse voir un sommaire du plan de Dieu pour sa création. 5e nous rappelle à qui qu'on a affaire. Pas un despote, pas un dictateur. On n'a pas affaire à ces dieux grecs d'autrefois qui exigeaient des sacrifices humains. On a affaire à celui qui nous aime. Et Jean nous rappelle la continuité. Le verbe est traduit au continu. Celui qui nous aime, il nous a aimés, qui nous aime maintenant, puis il va nous aimer dans le futur. Il nous aime continuellement. Dieu vous aime. Et moi, j'ai tellement peur, lorsque j'emploie le mot « amour », que les gens prennent ça de travers. Ça ne veut plus rien dire, le mot « amour » aujourd'hui. On dirait qu'on l'a tellement utilisé dans les chansons, on l'a tellement utilisé pour toutes sortes d'autres choses que l'amour que Dieu a pour nous, que ça a perdu son zeste, le mot « amour ». On a même confondu le sexe avec « faire l'amour ». On ne sait plus ce que c'est, l'amour. Mais l'agapéo de Dieu... L'amour de Dieu est garanti par l'autorité du Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a fait, il nous garantit qu'il nous aime. Et mes amis, peu importe ce que vous vivez, Dieu vous aime. Peut-être vous ne saisissez pas toute l'étendue de cet amour, mais Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et Jean nous rappelle dans cette introduction le sommaire du plan de Dieu. Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. Et lorsque Jean nous dit « Quelle sorte d'amour donc Dieu nous a aimés ?» Elle est un amour extraterrestre, c'est un amour qui n'est pas humain, c'est un amour divin. Et cet même amour, dans Romains 5, 5, est déversé dans les cœurs des croyants, afin que nous puissions, qui est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs, l'amour de Dieu, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres de cette même qualité d'amour dont Dieu nous a aimés. Et Jean, au début, avant de nous emmener dans le futur, avant de nous emmener dans toutes ces descriptions de bébites et de situations qui ne sont pas très, très belles à voir, nous rassure de l'amour de Dieu pour nous. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous, pour moi. Dieu m'aime, même si je suis haïssable. Dieu m'aime, même si je vis des choses difficiles. Dieu m'aime, même si j'ai une épreuve qui me dépasse. Dieu m'aime. Je faisais ma marche avec Diane cette semaine, puis vu qu'il faisait beau, mon voisin, un de mes voisins me dit, j'en ai 51 voisins en passant, un de ceux-là, me dit, il mouille pas, Dieu est bon. J'ai dit, vous savez, monsieur, même quand il pleut, Dieu nous aime quand même. Dieu est bon quand même. Ah, il dit, dans le fond, il dit, t'as raison, il dit, les cultivateurs ont besoin de pluie. Dieu nous aime. Deuxièmement, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le sommet du plan de Dieu, on est en train de faire là. Laver, et là, vous avez 1910, je vois que des 1910, des colombes, des secondes, il y en a qui ont lavé, il y en a qui ont délivré. Mais en fin de compte, le fait que Jean nous rappelle, oublions pas, Dieu nous aime, il nous a délivrés de nos péchés, pas n'importe comment. On n'a pas été racheté par de l'argent ni de l'or, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que le christianisme biblique est christocentrique. Est pas centré sur les formules, même si c'est une formule évangélique. Elle est centrée sur une personne qui a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. Pauvre monde, ils ont un jour de souvenir par année. Nous autres, on en a 52 quand on prend la table du Seigneur. C'est le fun. On en a 51 de plus. Pour se souvenir que c'est le précieux sang de Jésus-Christ, des soldats ont donné leur vie pour leur patrie. Des soldats ont versé le sang pour sauver leur patrie. Et c'est honorable, OK. Mais sachons que celui qui a donné sa vie pour sauver l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et Jean nous rappelle cela au départ. Troisièmement, Jésus a fait des prêtres et des prêtresses pour Dieu son Père. Un royaume de sacrificateurs. Des pierres vivantes. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple. Le peuple de Dieu. Et oui, le peuple de Dieu, c'est le meilleur des peuples, même avec tous ses défauts. Il est meilleur que le peuple des sportifs. Il est meilleur que le peuple des politiciens. Il est meilleur que le peuple des joueurs de quilles. Le peuple de Dieu, c'est le meilleur des peuples, même avec tous ses défauts. Est-ce que vous croyez cela? C'est le peuple de Dieu, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, et a fait de nous des prêtres et des prêtresses, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et Jean nous rappelle, avant d'entrer dans l'Apocalypse, il nous rappelle le sommaire du plan de Dieu pour sa création. Dieu use de patience envers tous, afin que tous viennent au pied de la croix, qu'ils acceptent le paiement de leurs péchés, qui a été fait par le sang précieux de Jésus-Christ, afin qu'ils deviennent le peuple de Dieu, des prêtres et des prêtresses pour Dieu, oints par le Saint-Esprit et envoyés par Dieu pour nos contemporains qui nous entourent. Ensuite, Jean va nous donner ce qu'on appelle une doxologie. Il y en a plusieurs. Et là, on dirait que Jean perd les pédales. Bon, je ne devrais pas dire ça. Mais là, quand il pense à ce qu'on vient de voir, là, il est obligé d'arrêter et de dire « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles! » Est-ce qu'on réalise qu'on vient de faire le résumé du plan rédempteur de Dieu et l'idée magistrale de Dieu de faire des églises locales et de faire des représentants de Dieu sur cette terre et faire de nous des petites lumières chacun dans notre coin et faire de l'Assemblée du Cap un chandelier qui rayonne dans le royaume des ténèbres. Et là, Jean ne peut plus, puis il est obligé, l'esprit saisit, puis il dit « À lui! » Notre Dieu sauveur, à lui la gloire, à lui la puissance, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est en contrôle de tout au siècle des siècles. Et amen. Oh là là. Il va continuer après cette doxologie, cette il va dire, le Seigneur va revenir. Le sommaire du plan de Dieu, sa création. Il dit à sa création, Jésus revient. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus revient. Il va venir d'une manière visible cette fois-là. Il va venir, et ceux qui l'ont percé, Israël et les non-juifs, vont le voir. Toutes les races de la terre se lamenteront à cause de Jésus. Oui, amen, dit Jean. Écoutez bien, toutes les races, toutes les tribus, dans les derniers temps, race contre race, c'est quoi? On ne le voit pas un peu partout dans le monde? Tribu contre tribu, race contre race. C'est exactement ça que l'Apocalypse dit. C'est des races, ce n'est pas un pays contre un pays. C'est une race contre une race. Et c'est les signes des derniers temps. Et toutes les races de la terre se lamenteront à cause de lui, parce que le propriétaire de l'univers arrive avec les clés, puis dit, on ferme la boutique. Ils vont-tu poigner de quoi? Six, 8, c'est-à-dire. 1-8. La signature de l'auteur démontre sa souveraineté. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » 9 fois sur 10, dans le Nouveau Testament, ce mot « Tout-Puissant » 10 fois. Et 9 fois dans l'Apocalypse, pour vous montrer que Jean, lorsqu'il dit qu'il veut encourager les serviteurs de Dieu, qui veut que les serviteurs de Dieu lèvent les yeux vers le ciel à cause des persécutions, à cause du découragement, il leur dit, le Tout-Puissant est là, le Tout-Puissant est en contrôle, le Tout-Puissant n'est pas dépassé par la situation. 4 questions pour vous pour terminer. Application. Ces questions-là, dans le fond, je me les pose pour moi-même. 4 questions vitales pour nous ce matin. Parce que c'est beau tout ça. On a vu des belles choses. La signature de la Trinité. Jean, témoin oculaire. Jésus-Christ qui révèle, enlève le couvercle, enlève ce qui s'est caché. Nous montre quelque chose que les autres ne vont pas voir, ne peuvent pas voir. On doit se poser 4 questions vitales pour nous ce matin. Première question. C'est peut-être une question naïve, mais il faut s'en poser. Avez-vous peur de vous poser des questions? C'est épeurant, des questions. Le Seigneur enseignait par des questions. Acceptons-nous la révélation de Jésus-Christ, notre Dieu sauveur? Là, si je vous fais lever la main, vous avez tout levé la main. Ben oui, on l'accepte. Qu'est-ce que ça veut dire, accepter? Y croire et la vivre au point que lundi matin, mardi matin, mercredi matin, ma vie est transformée parce que pour moi, je y crois. Croire au point de déranger sa vie, accepter la révélation de Dieu comme étant quelqu'un qui va déranger sa vie parce qu'il y croit vraiment. Tellement épeurant ce petit mot pistis, le petit mot croire. C'est donc facile. Je crois. Je crois. Et c'est tellement un mot qui peut être insignifiant dans la vie des gens. Lorsque la Bible parle de y croire, parle de l'accepter, parle de le prendre au mot, parle de mettre dans nos vies en action la vérité de Dieu. Est-ce que mes priorités de vie, est-ce que ma manière de penser, de parler, d'agir est influencée parce que j'accepte la révélation de Dieu dans sa parole? Pour ma vie à moi, personnellement. Et c'est tout un monde de différence. Ça va peut-être vous rester surpris, ça va vous lever plus de bonheur le dimanche matin pour arriver à l'Assemblée, parce que vous y croyez. Ça va peut-être vous pousser peut-être à lire plus la parole à tous les jours, peut-être à suivre un cours de BE ou Profac. Lorsqu'on y croit vraiment, mes amis, il y a des pattes à ça. Ce n'est pas une croyance platonique, philosophique, mais si on y croit parce que nos vies sont radicalement transformées, croyons-nous vraiment à la révélation de Jésus-Christ? 2e question. Rejetons-nous l'amour de Jésus-Christ? Lorsqu'on refuse de venir humblement et se reconnaître pécheur, puis on refuse de venir au pied de la croix pour accepter Jésus comme notre sauveur personnel, on vient de rejeter Jésus-Christ. Le fait de ne pas prendre de décision dit tout simplement que vous avez pris une décision de rejeter Christ. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas été au pied de la croix pour avoir le pardon de ses péchés, mon ami, c'est un temps propice pour cela ce matin. Repentez-vous. Si vous ne croyez pas que vous êtes un pécheur, vous n'auriez jamais besoin d'un sauveur. Un sauveur, ça sauve. Les pécheurs, donc, nous sommes. Un pécheur pardonné par la grâce de Dieu. Posons-nous la question. Troisième, croyons-nous en son sacrifice à la croix afin d'ôter nos péchés? Y croyons-nous vraiment? D'être délivrés de nos péchés, passer de l'esclavage du péché à esclave de la justice, Romains 6, 7 et 8, chapitre, qui nous parle de ça. Est-ce qu'on y croit que nous sommes de ceux qui sont des pécheurs pardonnés? Et lorsque la tentation vient frapper à notre porte, dire non au péché n'est pas extraordinaire. Arrêtons de penser que quelqu'un qui dit non au péché, il fait quoi d'extraordinaire? On est né de Dieu. On a le Saint-Esprit en nous. Dire non au péché, c'est notre manière de vivre. Et lorsqu'on pêche, on sait quoi faire avec le péché. Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Il y a un mécanisme de pardon dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on l'utilise? Quatrième question. Répondons-nous oui à l'invitation de Jésus pour entrer dans son royaume? Et toute la question de prêtre et de prêtresse. À quoi peut servir des sacrificateurs pour Dieu son Père? À quoi peut servir des prêtres et des prêtresses s'ils ne sont pas consacrés à leur Dieu, à leur Sauveur? C'est bien beau de dire « je suis chrétien ». C'est bien beau de dire « je suis un porte-parole de Dieu ». C'est bien beau de dire « moi je lis la Bible ». Mes frères et sœurs, chers amis, répondons-nous oui à l'invitation de Jésus d'entrer dans son royaume? Ici, on est d'un royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Ici, il y a un roi, ça veut dire qu'il est souverain. Ici, il est souverain, ça veut dire qu'il a la seigneurie dans ma vie. C'est ça, être dans le royaume. On va se lever debout pour prier le Seigneur. Pourquoi se lever debout? Parce que Dieu nous a vus, nous a entendus ce matin. Et Dieu a fait quelque chose, mes amis, d'extraordinaire ce matin. Savez-vous ça? Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Il a tout vu vos cœurs. Il a tout lu vos pensées. Puis il sait tout le radotage que vous avez fait derrière votre tête quand je prêchais. Il sait tout ça. Il sait tout ça! C'est pour ça qu'ensemble, puis il sait même moi, il sait tout. La tyrannie de l'urgence, l'horloge, le dictateur du temps. Il sait tout ça. Et ce matin, je vous invite à prendre 2 minutes et aller devant Dieu, qui nous regarde, qui nous entend. Seigneur Dieu, nous sommes sous ton regard de flamme, rien n'est caché, rien n'est couvert. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ce livre de l'Apocalypse, qui nous rappelle le plan de Dieu pour sa création. Et nous, comme enfants de Dieu, ici ce matin, nous voulons te demander de nous donner, Seigneur, d'être des prêtres et des prêtresses à la gloire de ton nom. Fais de nous des chrétiens réveillés, consacrés. Et Seigneur, toi qui es le grand spécialiste des cœurs, toi qui lis nos cœurs, s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui ne t'a pas accepté comme sauveur et maître de sa vie, nous prions que tu touches leur cœur par ton Saint-Esprit. Car c'est toi qui sauves, c'est toi qui révèles. Seigneur, sépare-nous avec ta bénédiction et fais de nous, Seigneur, des ouvriers de paix, des petites lumières qui luisent dans leur coin. Et fais de l'Assemblée du Cap un chandelier qui éclaire dans ce monde de ténèbres. À la gloire de ton nom. Amen. Amen. Bonne journée.